Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
On est de retour à la zone payante. C'est le quatrième essai en compagnie de Jean Carrier et de Stéphane Cadorette. OK, les gars, quatrième essai, on y va après une semaine.
On y va parce que c'est trop, j'aurais peur qu'on échappe le snap si on dégageait.
Oh, on en parlera tout à l'heure. Là. Tu étais en train de planter tes petites aiguilles dans le cœur de Jean en vue de ton mot final.
J'apprécie vraiment pas la boutade, les gars, vraiment pas.
Les gens vont comprendre plus tard où Steph veut en venir. Pour ceux qui ont vu le match des Browns, ils le savent déjà. Mais concentrons-nous sur le quatrième essai et sur... La question suivante. Est-ce qu'après la semaine 1, la question des carrières est réglée pour les 49ers de San Francisco?
Pour moi, c'est très clair.
Réglé, je pense que Jimmy G a fait ce qu'il fallait. Encore là, je reviens au même point. Il faut prendre en compte l'adversaire qui était Détroit, avec une tertiaire absolument minable, puis qui viennent de perdre Jeff Okuda en plus. Qui connaissait déjà pas un très bon début de carrière, mais tu sais, c'est quand même un gars qui a beaucoup de potentiel. Mais pour en revenir aux Niners, moi, j'ai aimé que Jimmy G soit en contrôle, qui a été précis du début à la fin. Puis, on a amené Trey Lance juste pour titiller un peu. Là. Puis, ce que ça fait en amenant Trey Lance, tu forces l'autre équipe, semaine après semaine, à se préparer pour certains packages de jeux où Trey Lance va être sur le terrain. Ça, je trouve ça très bien de la part de Shanahan. Donc, on l'a utilisé avec parcimonie. Un petit jeu de temps en temps, je pense qu'il était là 3 ou 4 jeux au total, dont une passe de toucher, sa première en carrière. Puis ce qu'on a vu, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est que ce sera pas là des corps arrière en alternance, une série puis un autre. Je pense que si Jimmy G continue de jouer de cette façon-là, on va y aller très, très prudemment avec Trey Lance, des jeux très ciblés. Puis ça pourrait être une combinaison là, qui fait très mal, un peu comme le faisaient les Saints avec Breeze et Taysom Hill.
À Chicago, est-ce que la question du corps arrière a plus ou moins de questions après la semaine 1?
Il y a autant de questions qu'il y en avait. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Mais tant et aussi longtemps, je pense qu'Andy Dalton sera le corps arrière partant. Je pense que c'est un petit peu ça que ça va donner. On n'a pas vu une mauvaise performance d'Andy Dalton. Ça se peut que ça s'en vienne aussi, ça. Il faut pas Andy Dalton, dans le passé, il a pas été bon pendant tous les matchs. Donc ça va être à surveiller, mais c'est pas comme à San Francisco où je pense que Jimmy G aurait quand même répondu à plusieurs questions. C'est quelque chose qui va être couramment mentionné à Chicago, puis ça a été mentionné tout de suite dans la conférence de presse à Nagy, l'entraîneur-chef. Est-ce que ça va être ça la semaine prochaine? J'ai l'impression qu'il va falloir qu'il s'arme de patience parce que il va falloir qu'il réponde à cette question-là à chaque semaine. Parce que tout le monde veut voir Justin Fields sur le terrain, mais comme on a dit, j'ai l'impression qu'ils veulent peut-être protéger le jeune joueur de lui-même. Ceci étant dit, même chose pour les Bears. Ils ont aussi impliqué Justin Fields dans un certain package. Donc, ça y donne un petit peu de temps de jeu. Ça force l'autre équipe à se préparer à deux carrières. Dans ce cas-ci, qui sont extrêmement différents, parce qu'Andy Dalton a un carrière vraiment de la pochette, tandis que Justin Fields peut faire à peu près tout sur le terrain. Il est très bon pour courir. Donc, c'est ça. Mais moi, j'aime beaucoup, honnêtement, ce que Justin Field a mentionné. Il a dit c'est Andy Dalton qui est carrière, je suis là pour regarder ce qu'il fait. Il a vraiment, je trouve, eu le bon raisonnement, Justin Fields. Il a vraiment appuyé Andy Dalton du début jusqu'à la fin. C'est un exemple de sagesse qu'il a montré pour un jeune joueur. Il a dit aussi au fanbase des Belges de se calmer. C'était Andy Dalton, le carrière pour l'instant. Donc, on va
voir. Il a même dit qu'il manquait de respect quand il se mettait à huer Andy Dalton.
Exact.
Moi, j'ai trouvé ça génial qu'un jeune comme Phil dise ça. Il dit, c'est un être humain aussi, puis vous manquez de respect quand vous êtes en train de crier mon nom pendant qu'il joue.
Il jouera pas mieux là, si vous criez mon nom.
Non, c'est ça, exactement.
OK, est-ce que la question des carrières a plus ou moins de questions après la semaine 1 à Miami?
Ben, c'est à peu près les mêmes questions. C'est-à-dire que Tua a... Moi, je trouve qu'il a quand même bien fait dans l'ensemble. Si on oublie l'interception horrible qui aurait pu être très coûteuse en fin de match.
Yes.
Parce que c'est le jeu qui revient en tête à tout le monde.
Il voulait se débarrasser du ballon. Il a juste pas réussi.
Ouais, mais tu sais, c'était douteux, là. Tu sais, des fois, t'es mieux de prendre un mauvais sac que d'une mauvaise interception, là. Mais dans l'ensemble, moi, ce que j'ai vu de ce match-là, Tua a pas nécessairement là, mal fait. T'sais, j'ai vu dans la balance plus de bonnes choses que de mauvaises choses. C'est juste que les gens en veulent tellement et tellement rapidement avec Tua que quand tu me poses la question, est-ce qu'il y a plus ou moins de questions? Ben, je pense que dans l'esprit des gens, globalement, là, je parle pas d'un amateur spécifique comme toi, là, mais globalement, les fans des Dolphins semblent encore ambivalents à son sujet. Moi, je continue de croire qu'il y a encore très peu d'expérience, qu'il vient quand même d'aller battre une équipe là, qu'on voyait grosse en début de saison avec tous leurs ajouts, là, les Patriots. C'est jamais une commande facile, surtout d'aller les battre à Foxborough avec du monde dans les estrades. Donc, pour moi, il a fait les bonnes choses, Tua, de manière globale en fin de semaine, malgré quelques petits pépins.
OK. Oui, je suis un peu d'accord avec toi, mais j'avoue qu'on est encore ambivalent.
Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme match de Tua, personnellement? Parce que je sais que c'est pas mal le match que tu regardes le plus, Miami, là, semaine après semaine après semaine, alors que nous autres, on se garoche un peu partout, moi, Pigeon.
Non, c'est vrai qu'on essaie de regarder notre équipe favorite un petit peu plus que les autres, mais j'avoue que le match des Dolphins était quand même excitant, mais deux quarts qui ont eu de la difficulté quand même. Mac Jones a été correct, mais a été prudent. Dans les zones intermédiaires, toi, il est comme 1 en 9. Là. Fait que c'est sûr que aussi, c'est louche. Je vous dirais qu'il y a au moins autant de questions qu'avant le match, mais tout le monde est content d'avoir volé le match.
Puis faut pas oublier une chose, autant dans le cas de Jones que de Tua, c'était deux très bonnes défensives, bien rodées, là, techniquement là, assez solides, qui ratent pas beaucoup de plaqués, qui sont là sur leur homme. Je pense que ça aussi, il faut que ça soit dans l'évaluation.
OK, à Denver, est-ce qu'il y a plus ou moins de questions après le match?
Honnêtement, il y en a vraiment beaucoup moins. Là. J'ai été vraiment impressionné de la performance des Broncos sur la
route. Sa première demi, Bridgewater, ça n'a pas été facile. Là.
Ça n'a pas été facile, mais tu voyais qu'il était en contrôle de l'attaque quand même. Il n'y a pas eu d'erreur majeure, puis c'est ça qu'on s'attend aussi de Teddy Bridgewater. Puis en deuxième demi, je pense qu'ils ont ouvert un petit peu le cahier de jeu, puis ça l'a aidé. Il a pris plus de risques des fois que je pense que tu vois habituellement, puis ça a payé. Il a montré un certain niveau athlétique aussi, surtout sur la passe de toucher qui a fait mal, ou ce qui a évité vraiment un joueur des Giants pour la remettre là, à son joueur pour le toucher qui a vraiment distancé les Giants. Puis honnêtement, il a eu vraiment le meilleur sur Daniel Jones. Donc pour moi, je pense qu'il a répondu beaucoup à plusieurs questions. C'est ça qu'on va voir des Broncos. Puis ça va être le carrière, selon moi, qui va être là toute l'année. Je ne vois pas, honnêtement, Teddy Bridgewater sortir de son poste de partant.
Okay. Il y a une question en suspens dans le cas de Teddy, là, c'est la perte de Jerry Jeudy. C'est pas mal le receveur de premier plan à Denver. Là, il est out pour 4 à 6 semaines, je pense. J'ai hâte de voir comment il va réagir dans ce contexte-là, parce que t'as une grosse arme de moins entre les mains quand même.
Je suis d'accord, mais dans le cas de Denver, t'as Cortland Sutton, qui est selon moi un receveur sous-estimé, qui revient d'une blessure l'an passé, il n'a pas joué. Il est très, très athlétique. Ouais. Il peut prendre ce rôle-là. Puis t'as Noah Fant aussi, qui est un allié rapproché quand même très athlétique. Fait que oui, ça fait mal, c'est une arme de moins, mais il y a quand même des choses à faire dans cette attaque-là. Donc je
un bon champ arrière aussi, là. Deux bons porteurs de ballon pour l'appuyer, là. Ça aide.
On en parlait tout à l'heure. Les Eagles de Philadelphie ont-ils réglé leur question de corps arrière après le match de Jalen Hurts?
Ben, comme je te disais tantôt, régler, c'est un grand mot, tu sais, j'étais à la blague là avec mon overreaction plus qu'autre chose. Mais plus sérieusement, il a montré vraiment de très belles choses. Il y a encore une petite tendance, Jalen Hurts, à partir à courir là, dès le moindre effondrement de sa pochette, mais c'est un peu son style, tu sais, c'était comme ça au collège aussi. Qu'il soit avec Oklahoma ou Alabama, là, peu importe, c'était pas mal dans ses cordes de faire ça. il y aurait cette petite tendance-là à travailler. Puis j'ai hâte de le voir, comme je le disais tantôt, contre une autre équipe que les Falcons, parce que sincèrement, je me demande s'il n'est pas pogné à pire défensive de la Ligue. Là. Ils vont être en rivalité sérieuse, les Falcons, pour la pire unité défensive de la Ligue avec les Jaguars, admettons. Là. C'est pas chic-chic là-bas. Il n'y a pas beaucoup de pression. Je vous dis qu'il avait tendance à fuir sa pochette un peu rapidement. Puis quand tu joues contre les Falcons, il n'y a à peu près rien de plus confortable qu'une pochette protectrice contre les Falcons là, dans la NFL. Là. Ils n'appliquent aucune pression ou presque. Donc, bien hâte de le voir contre une autre équipe qui va appliquer la pression avec plus de constance, puis qui a aussi une meilleure tertiaire que celle d'Atlanta. Mais si tu me demandes, cette semaine, est-ce qu'il a répondu à des questions? Clairement. On voit qu'il est capable de jouer dans cette ligue-là. Maintenant, il faut le voir, son niveau de jeu contre des adversaires un peu plus sérieux.
OK. Est-ce que à New York, les Giants, eux, ont réglé leurs questions pour l'an prochain? Est-ce qu'ils vont repêcher un corps arrière après la performance de Daniel Jones, Jean?
Après cette performance-là, je pense que oui, on va quand même donner chance au coureur pour le reste de la saison. Ça reste un seul match. Mais tout ce qu'on voulait voir de Daniel Jones, il l'a pas montré. Puis tout ce qu'on voulait pas voir de Daniel Jones, ben il l'a encore montré. Un revirement coûteux quand c'était important. Quand il a échappé le ballon sur une course, son je sais pas combientième échappé en carrière.
Écoute, c'est incroyable ça, Jean, que tu le mentionnes, c'est son 30e échappé en carrière.
Complètement.
Hey, on parle pas d'un gars qui a joué 150 matchs dans la NFL.
Il y a 40 revirements en 28 matchs.
Non, c'est épouvantable. C'est semaine après semaine après semaine. À un moment donné, la tendance, il faut qu'elle se corrige, puis elle se corrige pas, visiblement.
Le seul carrière qui atteint le plus rapidement le 40 revirements en carrière, c'est Mike Bulger.
Ah, Mike Bulger, OK. Parce que Dave Craig aussi, carrière, il y a plusieurs années, mais il faisait beaucoup de revirements. Anyway, c'est ça. Daniel Jones, pour moi, je pensais qu'il allait répondre à certaines questions. C'est vraiment pas bien parti. Puis dans le cas des Giants, ben tu regardes évidemment le substitut, ça c'est peut-être quelque chose qui a pas été fait dans l'entre-saison parce que tu voulais garder la confiance de Daniel Jones, tu voulais peut-être pas y donner une grande course puis le cimenter comme partant, mais c'est Mike Glennon, le grand Mike Glennon qui est le substitut.
Ouais.
Avec les Giants, donc tu sais, ça met pas ben de pression à Daniel Jones. Est-ce qu'il va vraiment se faire enlever de son poste de partant pour mettre Mike Glennon? Laissez-moi en douter, les gars. Donc c'est ça. Ça va être encore lui pour au moins quelques matchs. Mais les choses sont vraiment pas bien parties. Puis il a répondu. Écoute, pour moi c'est un énorme mystère présentement là, les Giants.
OK, les gars, on va y aller avec la section fantasy cette semaine, si vous voulez bien. Qui vous iriez chercher sur les wires de fantasy football qui pourrait aider une équipe là, dans les prochaines semaines?
Ben moi, je surveillerais la situation des porteurs de ballon à San Francisco. Là, on a appris hier que Raheem Mostert, c'est une blessure qui met fin à sa saison. On parlait de quelques semaines au départ, mais là, finalement, il va avoir opération. Il est fini pour l'année. C'est dommage dans le cas de Mostert parce qu'il est toujours efficace quand il joue, mais il joue très peu. Il est très souvent blessé. Puis là, on a une bataille de recrues dans le champ arrière des Niners. Elijah Mitchell, qui a très bien joué là, cette semaine, qui a été dynamique, explosif, un choix de 6e ronde. Puis de l'autre côté, tu as un choix de 3e ronde. C'est drôle, il était pas en uniforme cette semaine. Shanahan a expliqué après le match que Trey Sermon va jouer, mais que cette semaine, dans le plan de match, il était pas utile côté unité spéciale, puis comme lead back, on avait Raheem Mostert. Donc, les prochaines semaines, il va être habillé, Trey Sermon, puis ceux qui l'ont vu jouer à Ohio State, particulièrement l'an passé, c'est un train. C'est vraiment un style différent là pour Mike Shanahan. Est-ce qu'il va préférer le porteur de ballon dynamique qui peut contribuer sur le jeu aérien, là, je parle plus de Mitchell de ce côté-là, ou Sermon qui va aller chercher des verges course après course après course, qui va faire mal à l'adversaire, particulièrement en deuxième demi? Ça peut devenir une situation intéressante. Le seul problème dans ces cas-là, c'est quand ça finit en comité, puis on sait que Shanahan aime bien les comités, mais il y a quand même eu des porteurs de ballon numéro un là, dans le passé qui ont été très productifs dans une attaque de Kyle Shanahan. Je pense à Alfred Morris, Devontae Freeman à Atlanta. C'est des exemples. Donc, à surveiller du côté du champ arrière de San Francisco.
J'espère que tu as raison. Je vais aller chercher Mitchell dans pas mal de poules. OK, Jean?
Oui, écoute, moi qui ai perdu quand même trois joueurs partants avant même que ça débute vraiment. J'étais sûr de qu'il y avait Mustard dans l'alignement. J'ai perdu Gus Edwards et Curtis Samuel est out aussi pour 8 semaines. Donc, ça fait mal un fantasy, ça, les gars, mais j'ai des bonnes suggestions. Christian Kirk, le receveur des Cards,
oui.
Disponible dans encore 85% des cas dans les ligues Yahoo. Il a connu un fort match. On se demandait, évidemment, avec l'avenue de quelques receveurs, des ajouts dans l'alignement des Cards, qu'est-ce que ça va en devenir de Kirk? Ben, on voit, il a encore sa place. Puis il est dans une attaque, selon moi, qui risque d'être explosive, celle des Cards. Donc, je pense que ça pourrait être un bon ajout. Écoute, quand même 5 catches, 70 verges, 2 touchés en fin de semaine. Il n'y aura pas autant de touchés, je dirais, dans la saison. Mais s'il garde cette contribution-là de 5-6 attrapés, souvent, lui, il est dans les zones profondes et intermédiaires, ben, ça pourrait être un bel ajout. Et l'autre ajout, j'ai même une deuxième suggestion pour vous autres, le bon vieux Nelson Agholor, les gars. Nelson Agholor avec les Pats, il a pas mal fait. On a vu que Jones, dans son cas, je trouvais qu'il regardait beaucoup pour aller chercher le vétéran Agholor. Puis, évidemment, on se rappelle, c'est toujours la même chose. On pense qu'il n'y a pas de main, mais l'an dernier, il y a eu une très bonne saison avec les Raiders. Il n'a pas échappé beaucoup de ballons. C'est ça qui vous fait titiller. Ben, je pense qu'encore, il va être encore solide avec les Pats. Il y a eu une très bonne première semaine. J'ai l'impression qu'il va être ciblé beaucoup. Il est disponible encore dans 65% des ligues.
OK, merci les gars. Je vous pose la question quiz de la semaine. Tous les recrues qui ont été repêchées dans le top 10 ont participé ou de près ou de loin à un toucher, une passe ou une course, sauf un. Qui a pas fait toucher cette semaine? Qui a été repêché?
J'allais dire Najee Harris, mais il est pas dans le top 10.
Ben là, tu comptes pas Penei Sewell quand même, c'est un bloqueur.
Pas Penei Sewell, évidemment.
Je dirais Zach Wilson. Ah non, mais non.
Non, Zach Wilson a une passe de toucher.
Il y a même deux touchés à Corey Davis.
Non, je l'ai pas.
C'est
non, un Kyle Pitts.
Exactement, oh. Kyle Pitts, le gros tight end à qui on attendait beaucoup, mais qu'on s'est tous dit que la position de lié approché dans la Ligue nationale de football est une position difficile à prendre, mais c'est le seul qui a pas fait toucher parce que Waddle, Devontae Smith, Jamar Chase.
Mais abandonnez pas sur Pitts. Rappelez-vous TJ Hawkinson, sa première saison à Détroit, tu sais, c'était quand même correct sans plus. Il est en train vraiment de s'imposer. Ouais. Là, quand vous regardez ses chiffres actuellement, là, ça prend... Pitts pourrait briser le moule, selon moi. Là, il pourrait, dès cette année, là, s'imposer. Mais honnêtement, les alliés rapprochés, c'est pas rare là, que ça va à la deuxième année, même des fois à la troisième.
OK, merci les gars. On fait une pause. Et après la pause, ben le moment que tout le monde attend pour faire leurs prédictions eux-mêmes sur leur pool, c'est-à-dire vos prédictions d'experts. On en parle après la pause, bougez pas.